Bienvenue sur le podcast du site La Catabase. Mon nom, Pierre-Philippe Lefebvre. Je suis sociologue de formation, enseignant par passion. Mon objectif, c'est de proposer des rencontres avec des gens. Les personnes que je rencontre sont intéressantes parce que, de manière typique, elles ont vécu des blessures ou des chocs qui leur servent de moteur de transformation. Les transformations proposées sont individuelles ou sociales. Le but, c'est toujours de proposer quelque chose plutôt que de tout simplement se contenter d'énoncer. Alors, parfois, ça peut arriver qu'on s'indigne, mais toujours avec comme objectif d'aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous aimez liker, si vous aimez partager, si vous aimez écouter encore. Rebonjour. Bienvenue au premier épisode du podcast La Catabase. Le thème d'aujourd'hui, aimer son corps. Est-ce qu'on a encore le droit d'aimer notre corps? Est-ce que c'est correct d'aimer son corps? Est-ce que c'est possible d'aimer son corps? C'est des questions qu'on se pose. Pour aborder ces questions-là, j'ai choisi d'interpeller l'organisme Arrimage Estrie, qui est un organisme d'action communautaire autonome. Ce qu'ils valorisent, c'est le développement d'une image corporelle positive. Ils accompagnent également les personnes qui sont touchées par un trouble du comportement alimentaire ou une préoccupation envers leur corps, leur poids ou leur apparence. Sérieusement, ça touche à peu près tout le monde. On a tendance à penser que la problématique est féminine. On le verra, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai été accueilli dans l'organisme, j'ai rencontré les intervenantes. C'est un organisme qui est superbe, je vous invite à aller le voir. Ils sont au 6 rue Wellington Sud pour les gens de Sherbrooke. Pour les gens d'ailleurs, eh bien, ils ont un site internet. Tous les liens vont être dans les notes à propos de l'épisode. En entrevue, j'ai deux intervenantes. Karine Lisé, la responsable de la prévention et de la promotion d'une image corporelle positive. Et également Sarah Frost, responsable du volet troubles du comportement alimentaire. Ces deux personnes très intéressantes, vous allez voir, elles parlent beaucoup. Pourquoi elles parlent beaucoup? Parce que quand j'ai affaire à des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi sur une question, ce qui était le cas, je les laisse parler. Madame Lisée est diplômée en technique d'éducation spécialisée. Elle est intervenante depuis de longues années dans l'organisme. De son côté, Madame Frost a un baccalauréat en sociologie, en études féministes. Heureux hasard, si vous me le demandez. Je ne le savais pas, je l'ai appris live pendant l'entrevue. Elle est également présentement en rédaction aux études supérieures. On lui souhaite bon courage dans ses projets. Vous le verrez, il faut s'armer de patience. C'est ma première entrevue, alors je cafouille passablement. Ça me prend à peu près 5 minutes pour prendre du mouvement, j'ai envie de dire. Soyez patient, soyez patiente, donnez-moi 5 minutes. Après ça, l'entrevue, je crois, est très bonne. Les interviewés ont donné des recommandations de lecture et de films pour vous approprier le sujet de la diversité corporelle et des troubles alimentaires. Toutes les recommandations se retrouvent sur le site à côté de l'entrevue. Alors voilà, je vous laisse en bonne compagnie. On passe à l'entrevue avec les intervenantes d'Arrimage. Je suis présentement avec Karine Lisée et Sarah Frost. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on discute d'Arrimage Estrie et de l'image corporelle.
Tout à fait.
Alors, on se lance. De quoi on parle exactement quand on parle d'Arrimage Estrie? Est-ce que vous vous concentrez sur les désordres alimentaires? Qu'est-ce que ça couvre? Qu'est-ce que ça ne couvre pas?
Mm-hmm. Bien, en fait, on n'est pas... souvent, on se plaît beaucoup à rappeler les gens à l'ordre qu'on n'est pas un organisme uniquement trouble alimentaire. Avant tout, on est vraiment un organisme de développement d'image corporelle positive. Puis, on a aussi évidemment des services, on a un volet intervention auprès des troubles du comportement alimentaire, mais principalement, ça se trouve vraiment, on essaie d'arriver avant le développement de problématiques, donc en prévention, sensibilisation. Puis, je peux, oui, voilà.
Mais c'est large, ça, l'image corporelle positive, ça veut dire quoi? Il faut que tout le monde aime son corps?
Bien, en fait, image corporelle, pour faire une définition précise, c'est la perception qu'on a de notre corps et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on croit que les gens perçoivent de nous. Fait que, tu sais, souvent, on va déconstruire beaucoup, exemple en atelier, on va beaucoup expliquer que, justement, le fait que ce soit une perception, c'est quelque chose qui est modifiable puis qui peut varier dans une journée, une année, une vie, dépendant de ce qu'on vit. Puis c'est énormément influencé par des facteurs extérieurs aussi. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une perception, comment on se perçoit puis comment on croit que les autres nous perçoivent.
OK, puis ce que vous postulez, c'est que les désordres alimentaires arrivent après une perception déformée du corps ou de l'alimentation?
Ça en fait partie, c'est pas la raison principale.
Mm-hmm. OK.
Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu d'image corporelle avec presque toutes les personnes qui vivent un trouble alimentaire. Mais c'est pas la seule.
Mm-hmm. C'est multifactoriel, ouais, en fait, le trouble alimentaire.
Ouais.
Les élèves qui vont écouter les auditeurs n'aimeront pas ça parce qu'on veut souvent une réponse simple mm-hmm. à ça.
Oui.
Fait que là, c'est pas un problème de volonté, c'est ça?
Non.
Non, c'est pas un caprice non plus. Hein?
Non.
OK. Juste qu'on mette ça au clair.
Ouais. Oui, oui.
Ouais, vraiment, oui, vraiment multifactoriel, puis on met beaucoup le doigt là-dessus, dans le sens où il va y avoir des fois des éléments qui vont être déclencheurs d'un trouble, mais c'est vraiment un ensemble de facteurs qu'on, tu sais, puis on, Sarah, tu as l'image beaucoup là, du sac à dos ou de la valise oui. qu'on traîne dans une vie, puis même
que si... les personnes sont prédisposées, puis après il y a un élément déclencheur, puis après on voit l'apparition du trouble.
Mm-hmm. OK, comme plein d'autres problèmes, finalement, il y a une prédisposition
oui.
qui est là.
Oui, autant... génétique, que psychologique, que social. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on développe un trouble alimentaire.
Je diverge un peu. Je connais personne, moi, à peu près. Ma blonde est superbe. Ça y est, j'ai pu le plugger. Je suis content.
Elle va être contente.
Oui, elle va être contente. Mais je pense pas qu'elle est contente tellement de son image corporelle. Je connais personne qui est très, très satisfait mm-hmm. de son image corporelle. Est-ce que ça touche tout le monde? Ou...
C'est devenu radical d'être bien dans son corps, surtout si on est une femme.
Ouais.
Pour les hommes, de plus en plus, ça devient radical d'être bien dans son corps aussi. Mais l'insatisfaction corporelle, toutes mm-hmm. les études le démontrent, puis ça commence de plus en plus tôt. Ils font des sondages auprès des enfants de genre 5-6 ans là, qui disent qu'ils aimeraient perdre du poids. Puis qui sont insatisfaits, puis plus on grandit, plus les insatisfactions sont présentes, puis il y a aussi des comportements qui vont avec, dont les régimes. Mm-hmm. Puis on sait que les régimes peuvent rendre les gens plus fragiles au niveau du trouble alimentaire.
Mm-hmm. Que ce soit une porte d'entrée.
Oui.
Mm. OK, puis ça se développe avec le temps, on passe d'un régime à l'autre, c'est ça, puis à un moment donné, ça devient une obsession.
Mm-hmm. Oui. Ben, c'est plus, en fait, la roue des régimes, c'est que plus tu tournes dedans souvent, plus tu es effectivement à risque. Entre autres, c'est premièrement au niveau physique, ton métabolisme est atteint par cette roue de régime-là aussi. Et évidemment, quand tu viens de passer 3-6 mois dans un régime et que tu échoues, comme 95% des gens qui suivent un régime, qui vont reprendre le poids qui a été perdu, ou puis de ce 95%-là, il y en a 60% qui vont reprendre plus de poids, en mm-hmm. fait, étant donné qu'il y a une période souvent de compulsion après un régime, mm-hmm. parce qu'il y a eu de la restriction, tu sais. Fait que voilà.
Mais aussi, la restriction est complètement normalisée dans notre culture.
Oui.
Que tout le monde doit se restreindre, que tout le monde doit s'entraîner, c'est mm-hmm. un must, sinon on n'est pas en santé. Mm-hmm. Mais la restriction amène à la compulsion, puis ça, c'est deux choses qui sont comme communes dans tous les troubles alimentaires.
C'est comme si c'était devenu anormal de dire, tu sais, quelqu'un qui dit « moi, j'aime mon corps, je suis bien dans mon corps », c'est un discours qu'on, premièrement, on n'entend pas, puis je me demande jusqu'à quel point on est comme content d'entendre ça, tu sais. Tu sais, il y a 95% des femmes qui ont des insatisfactions par rapport au corps, au poids, puis les garçons, c'est un peu moins de 50%.
C'est ça, c'est quand même important.
Oui, exactement, puis c'était pas probablement les mêmes données il y a 10 ans chez les gars, fait que tu sais, les gars vont, de plus en plus, il y a des problématiques, puis il y a des problématiques spécifiques aux gars qui se développent, qui étaient peut-être pas là avant, puis qui sont un reflet direct des stéréotypes, des images qui sont proposées.
Puis, on pense à la bigorexie, ces choses-là.
Oui, l'orthorexie.
OK.
L'obsession du qualité des aliments puis de l'aliment santé mais qui devient comme une obsession. On s'entend qu'il y a un climat culturel qui nourrit tous ces troubles.
Ouais.
On ne peut pas nier qu'il y a un aspect socio-culturel super important dans l'émergence des troubles alimentaires.
Ou qui banalise, là, qui est un terreau fertile, mais en plus qui va normaliser ces préoccupations-là.
Ouais.
Parce que ça, j'en ai dans mes groupes. Je le vois chez les élèves, c'est sûr que ça m'affecte. Quel est, vous pensez, là, au niveau social, les principaux courants là, que vous devez, qui provoquent ces changements-là ou ces modifications-là ou ces tendances-là chez les individus?
Ça, il y en a tellement. Pour la bigorexie, on voit de plus en plus que les images de l'archétype masculin est comme hyper musclé. Là. On voit ça partout. On a fait une comparaison en images des bandes dessinées de genre mon enfance. Puis les bandes dessinées d'aujourd'hui, les personnages sont jackés. Là. Ils sont ils pourraient même pas se tenir debout tellement qu'ils sont musqués dans l'eau du corps, dans la version popsicle, là, où
oui.
trop en haut, pas assez en bas. Puis, tu sais, c'est des jouets puis des images qu'on offre aux enfants. Là, ça fait partie de leur socialisation, ouais. Qu'on leur dit, c'est ça.
C'est ça être un gars, c'est ça être une fille. Puis non seulement il y a des stéréotypes qui sont physiques, t'sais, nous on travaille beaucoup avec l'aspect stéréotype parce que c'est hyper lourd là, dans l'aspect socio-culturel. Puis c'est tellement ancré, puis il y a beaucoup de débats entre l'inné et l'acquis. Oui. C'est quoi? T'sais, oui, on parle du physique, bon, le standard de beauté ressemble à ça chez les filles, ressemble à ça chez les gars. Il y a des mots, tu sais, quand on le fait décrire, peu importe la classe, même si je passe 45 classes oui. dans une année, c'est toujours le même modèle qui ressort, toujours la même description. Oui. Fait que c'est de dire à quel point c'est intégré, mais ça reste que ces modèles-là, on nous les présente 3000 fois dans une journée à travers les publicités de toutes sortes. Ça, peu importe le produit qu'on nous vend, c'est toujours un standard de beauté qui est similaire, qui revient, puis en voyant quelque chose 3000 fois par jour, ça devient
la norme. Ça
devient la norme. Ouais. C'est à cette norme-là qu'on se compare, évidemment. C'est un peu ça qui est...
Puis aussi, ça, c'est des images qui sont souvent dans l'espace public. On ne choisit pas de regarder ces images-là. Ouais. On a un espace public qui est de plus en plus peuplé d'images d'idéal de beauté. Donc, on ne peut même pas les éviter si on veut. T'sais, les enfants ne peuvent pas les éviter. C'est partout, sur les autobus, sur les panneaux, sur l'ordinateur. Il y a plein de supports pour ces images-là. Puis même si on est comme super critique par rapport à ces images, de les voir 3000 fois par jour ou X nombre par jour, ça devient une norme dans notre tête, là, notre cerveau. Il va dire, je vois ça, X nombre de fois, ça doit être ça la norme, même si on veut pas.
Il se réfère. En fait, le matin, quand tu te regardes dans le miroir, puis tu te poses la question, comme ça arrive à tout le monde, certains matins, est-ce que je suis assez beau, assez belle? Est-ce que je correspond? Est-ce que je suis assez beau, assez belle pour plaire, finalement? C'est le cerveau va aller se référer à cette image-là, puis... pour la simple bonne raison que c'est ça qui est exposé et c'est ça qui est intégré inconsciemment dans notre esprit. Fait que même si on a, tu sais, oui, on peut avoir un esprit critique qui va mettre un filtre, mais le fait qu'on est constamment exposé sans avoir le choix,
comme tu l'expliques. Puis autant dans les médias sociaux, on en parlait tantôt, que tu sais, il y a une autoproduction de ces images. Donc, c'est pas juste une imposition par les médias, par les corporations, mais tu sais, on a internalisé ces images-là et on les reproduit en médias sociaux. C'est soit en corrigeant ou soit en prenant juste la photo, on a l'air de X, ou soit en parlant de beach body non-stop sur les médias sociaux. Il y a comme une espèce de police de l'image corporelle et du poids qui se fait comme dans nos vies intimes aussi.
J'ai des élèves qui remarquaient que plus une personne avait un surplus de poids, plus sur les médias sociaux avait tendance à photographier juste son visage de très proche. Et à l'inverse, plus la personne est fière de son corps, plus apprend où sont décolletés ou fait des courbes avantageuses là, qui sont illustrées. Mm-hmm. Fait que vous le constatez aussi. Ça.
Oui, c'est des codes. On les décode, on sait ce que ça veut dire.
Ouais.
Ça nous dit aussi qu'un corps est acceptable et l'autre est quelque chose qu'on doit montrer puis en être fier.
Ben, puis ça dit que le corps est quelque chose de public. Puis ça, c'est j'aime beaucoup le ramener, tu sais, que le corps n'a pas à être un objet qui est public, n'a pas à être un objet premièrement, mais n'a pas non plus à être mis sur la place publique. Mais on est dans une culture qui met le corps toujours sur la place publique, comme si c'était quelque chose qui était ouvert à tout le monde, qu'on pouvait critiquer, commenter comme on voulait. Puis souvent, je ramène, tu sais, le corps, c'est ce qu'on en fait, c'est intime, c'est propre à soi, puis c'est pas les mêmes besoins pour tout le monde. Puis...
donc, le regard de l'autre n'est plus juste en live, tu sais, c'est le regard de l'autre, tu sais, de l'Internet sur mes photos.
Oui. Mm-hmm. Puis t'es acteur, c'est ça que je parlais tout à l'heure, c'est qu'on la nuance avec Facebook, les réseaux sociaux, c'est qu'on est directement acteur. Fait que tu sais, on est impliqué directement, on n'est pas juste spectateur de quelque chose, c'est que là on a le pouvoir de liker ou pas, ou de recevoir des likes ou pas, ou tu sais, recevoir un commentaire, publier une photo, mettre une réponse directe de... souvent, tu sais, on le fait nommer, c'est bon, on met une photo de nous qui est modifiée ou qui est à notre meilleur, mais c'est quoi le premier commentaire qu'on reçoit ou dans les premiers, c'est souvent « Ah, t'es belle! » Fait que c'est souvent des commentaires qui sont axés sur l'apparence plutôt que « t'as l'air bien! » Fait que c'est, on est dans cette culture-là beaucoup aussi.
Moi, j'ai une grande de 12 ans à la maison bientôt, puis je dis tout le temps « être belle, c'est bien, mais être bien, c'est mieux!
»
Pour l'inciter à qu'elle puisse s'habiller comme elle veut, mais effectivement, là, ce que vous dites, je constate, je le dis en classe des fois avec un peu d'humour, mais pour ma part, il n'y a à peu près plus d'espace public que des espaces publicitaires. Essayer de trouver un espace public dépourvu de publicité, c'est extrêmement difficile.
Ouais.
Puis encore plus, quand les gens tombent dans une forme de marketing d'eux-mêmes, c'est à travers les plateformes.
Oui.
Et si il y a quelqu'un qui vous entend, puis qui sent qu'il y a peut-être un problème d'image corporelle ou qui s'enligne vers un désordre alimentaire, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là?
Il y a plein de choses à dire. Mais déjà, s'ils sentent qu'il y a un enjeu, c'est important d'en parler à quelqu'un de confiance, juste pour démêler tout ça. Nous, on offre plein de services aussi. Les gens peuvent juste venir nous parler s'ils ne savent pas ce qu'ils vivent. C'est un enjeu d'image corporelle ou de troubles alimentaires. Puis juste comme on peut démêler ça ensemble. Mais déjà, si on voit que notre vie, comme au quotidien, est dérangée par nos pensées par rapport à l'alimentation ou le poids, le corps, peu importe, déjà, c'est un signal d'alerte qu'il faut faire de quoi.
Mais l'essentiel de vos activités, ouais, c'est quoi finalement? Parce que là, vous êtes préoccupé par l'image corporelle. Mm-hmm. Moi, je vous ai amené du côté spectaculaire, ouvert avec l'anorexie. C'est pas ça, mm-hmm, pas en tout. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites?
Ben, on fait, bonne question. On essaie d'outiller avant que ça arrive. T'sais, on essaie de... En fait, je me plais souvent à dire qu'on plante des graines, parce que c'est un peu ça. On essaie de proposer quelque chose qui est un peu... Qui ouvre à la diversité, qui va prôner des modèles qui sont peut-être différents, parce que ça existe. Quand on se promène dans la rue, de la diversité, il y en a à tous les coins de rue, mm-hmm, mais il n'y en a pas dans l'espace public, dans les images qu'on va nous proposer au niveau de la publicité. Fait que, ça devient un peu limitant, mais elle existe, la diversité. Fait que nous, on essaie de la ramener, puis mm-hmm, qu'on n'a pas toujours 20 ans non plus. Il y a comme sortir de ce cadre-là. Mais l'essentiel, en fait, souvent, la façon qu'on va faire ça, on va offrir des ateliers de prévention sans sensibilisation, en fait, dans les milieux. Fait que les gens nous appellent, font des demandes pour des ateliers, exemple, ou des kiosques dans les écoles. Puis c'est beaucoup, à travers ces ateliers-là, on va déconstruire certains thèmes. Évidemment, les stéréotypes sexuels sont au cœur de ça, toujours. Et le développement de l'esprit critique, là, c'est vraiment notre cheval de bataille. Mm-hmm. De développer l'esprit critique, apprendre les gens à réfléchir par eux-mêmes, puis remettre en question ce qu'on nous propose comme étant vrai, là. T'sais, c'est la base. Et on a 5 ateliers finalement qu'on va offrir, qui sont autant justement un sur les médias sociaux, où on va vraiment déconstruire ces images-là, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça, puis apporter des réflexions. Puis c'est des ateliers qui sont interactifs. On veut vraiment aller chercher la réalité des gens avec qui on l'offre. Fait, raison pour laquelle on peut l'offrir autant à des ados, à des jeunes adultes qu'à des personnes, mm-hmm, qu'à des personnes d'un autre âge. Puis c'est la façon qu'on l'apporte, puis la façon que eux nous nourrissent à travers ça qui fait qu'on construit l'atelier ensemble. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un peu ce qu'on fait à travers les ateliers. Sinon, des kiosques dans les écoles, on a une programmation d'activités aussi, où est-ce qu'on offre des conférences et compagnie. Fait que c'est l'aspect comme grand public où on est vraiment dans la sensibilisation, puis arriver, essayer justement de calmer ces préoccupations-là, puis d'offrir un autre modèle de pensée.
Oui. Puis comme sous-thématique, Karine fait aussi 2 ateliers sur l'écoute des signaux de faim et de satiété, mm-hmm, ce qui est comme un sous-sujet, parce qu'on pense qu'on voit que les gens sont de plus en plus dans l'intellectualisation de de l'alimentation et non pas connectés à leur propre corps. Ouais. Donc, il y a 2 ateliers là-dessus, parce qu'avoir une relation positive avec la nourriture fait partie d'avoir une image corporelle positive.
Ouais. Puis à l'inverse, c'est quand il y a des insatisfactions, souvent le moyen qui va... Quand on vit une insatisfaction, qu'on n'est pas bien, que ça vient vraiment nous heurter puis nous stresser, ben on va chercher à calmer cette angoisse-là. Puis le moyen sur lequel on a l'impression mm-hmm, d'avoir de l'emprise, c'est justement la nourriture. Fait que c'est souvent le premier moyen qui va être utilisé d'avoir des restrictions alimentaires, couper certains aliments, jeûner, sauter des repas. Il y a toutes sortes de moyens, l'exercice excessif dans le but de modifier l'apparence. Il y a tout ça qui rentre dans ce spectre-là.
Puis de ce côté-là, on offre des services aussi. On offre un groupe pour les personnes qui sont préoccupées par l'image corporelle. Ça, c'est Marie-Michelle, notre collègue, qui l'offre. C'est un groupe d'intervention par l'art, un groupe fermé où on va aller voir plein d'éléments de l'image corporelle parce que c'est complexe. Il y a l'estime de soi, il y a notre culture, nos relations, notre compétence corporelle. Il y a plein de choses là-dedans. Puis elle va vraiment comme... avoir une thématique par semaine, puis après 15 semaines, on a vraiment fait un tour de l'image corporelle à travers des activités d'intervention par l'art.
Vous avez dit plein de choses, c'est fascinant. Compétences, mmh, corporelles,
oui.
J'ai juste entendu ça.
Oui.
C'est quoi ça?
Ça, c'est super. Moi, j'adore ça mmh, connaître la compétence corporelle. C'est quand on sait c'est quoi les limites de notre corps. T'sais, je connais ce que mon corps peut faire. Okay. Et ça veut, il y a un lien avec l'écoute des signaux de faim et de satiété, parce que quand on connaît ses limites, on peut les respecter. Autant dans genre, je suis fatiguée, j'arrête, ou j'écoute mes signaux, ou j'ai besoin de sommeil. Mm-hmm. C'est vraiment être confiante dans qu'est-ce que notre corps peut faire, mais aussi accepter les limites.
Mm-hmm. Je vous écoute, là, puis un bout de moi qui a peur. parce que J'en parle, c'est une des premières leçons que je donnais à certains groupes. Là, je donne un cours sur le sport puis la théorie là, d'activité physique. Dans les premières phrases que je leur dis, on est obsédé par le corps là, oui. De manière collective.
Oui.
Mais en même temps, on est obsédé par le corps pour qu'il soit parfait. Puis on ne reconnaît pas les signaux de la faim. Puis on est déconnecté de notre image. C'est comme si la connexion corps-esprit est complètement coupée. Oui. Les gens ne se souviennent plus qu'ils sont des corps.
Non, totalement.
Et parce qu'ils ne s'en souviennent plus, ils deviennent obsédés par de quoi le corps, la façade du corps.
Oui.
Et qu'ils ne reconnaissent pas les signaux de stress, de fatigue, oui. De soif,
oui.
De faim.
Oui.
Les besoins de base.
Oui, ouais, là, tout le mouvement, méditer en pleine conscience,
oui.
Gérer
oui.
Son stress, le oui. Yoga, toutes ces affaires-là.
Manger
qui
en
sont
pleine
en
conscience.
Montée. Oui, manger en pleine oui, conscience, hein? Mastique. Bon, c'est.
On revient à la base.
On sait que je me fais expliquer de mastiquer.
Je sais.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
L'auto-alimentation des bébés, tu sais. Oui, bien, avant, c'était ça, là. Il y a une industrie derrière le fait que c'est pas comme ça qu'on alimente nos enfants, tu sais. Puis on revient à ça. Mais c'est vraiment. Puis c'est aussi comme de percevoir le corps comme une machine, tu sais, de dire j'ai besoin de X nombre d'énergie pour faire X tâches. Plutôt que de voir qu'il y a une diversité incroyable dans tous nos corps, puis la façon qu'on va intégrer un aliment ou réagir à une telle situation. T'sais, on n'est pas des machines, puis on n'est pas que des cerveaux. On est ultra dans la rationalisation de tout ce qu'on fait et pas dans la connexion avec le corps.
Pis c'est plus complexe, comme tu dis, c'est plus complexe que ce que j'ingère, ce que je dépense. Là. C'est pas un calcul qui est aussi simple que ça, la façon que notre corps va gérer le... La nourriture, il y a plein de facteurs là, qui rentrent en... Si on est justement, on parle du stress, des émotions, il y a un paquet de facteurs qui viennent en interaction. Tu sais, manger, c'est quelque chose de complexe.
Oui.
Ça ne devrait pas être un acte complexe, mais cette chimie-là qui se fait en dedans, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'un calcul de ce qui rentre.
Ben oui, puis c'est social, c'est relationnel. Tu sais, il y a plein de choses. C'est quels aliments sont disponibles pour nous. Tu sais. Est-ce qu'on peut penser à une fois? Je dis tout le temps, pensez à la dernière fois que vous avez fait une activité sociale puis il n'y avait aucune nourriture ou boisson. Les gens disent comme, il n'y en a pas. D'où la complexité de vivre un trouble alimentaire. Tu sais, la chose que les personnes vivent, c'est l'isolement. C'est pour ça que dans nos services troubles alimentaires, on ne fait que du groupe. On ne fait que du groupe parce que les gens vivent de l'isolement. Puis ils peuvent très bien vivre un trouble alimentaire et juste en parler avec un professionnel de la santé sans que personne autour d'eux le sache. T'sais, nous, on veut vraiment que les gens commencent à comme tisser des liens sociaux autour d'eux. Puis ça commence en expérimentant le partage, le soutien, l'entraide dans un groupe.
Est-ce que c'est vrai de dire que ces personnes-là restent toujours anorexiques ou sont toute leur vie?
Moi, je dirais non. Je dirais non. Par contre, le rétablissement d'un trouble alimentaire est vraiment complexe. Aussi complexe que le développement du trouble alimentaire en soi. Puis un rétablissement, ça n'existe pas sans des rechutes. Donc oui, il peut y avoir des périodes où la personne rechute, mais ça ne veut pas dire que la personne est toujours et tout le temps anorexique, surtout qu'une partie de l'anorexie, c'est que l'anorexie devient une partie de l'identité de la personne.
Absolument.
Puis le rétablissement, c'est comme de se décoller de ça. Donc si on disait que tu es toujours anorexique, ben on arrêterait au début. Ce n'est pas intéressant de cheminer sur le chemin du rétablissement, là, si on va toujours être ça. Voilà. Mais le rétablissement, comme le trouble alimentaire, est vraiment le chemin du rétablissement est propre à chaque personne, comme le chemin pour arriver au trouble était propre à chaque personne. Il y a des éléments qui sont semblables, mais chaque personne a leur histoire. C'est pour ça que c'est long et des fois assez difficile de cheminer dans le rétablissement.
Tu sais, c'est un outil aussi qui est utilisé à une certaine période pour une personne qui, à un moment donné, devient plus néfaste pour elle que payant, tu sais. Mais ça reste un outil qui, tu sais, il y a des gens qui arrivaient ici, ça fait 30 ans qu'ils vivent avec un trouble, autant qu'il y en a qui viennent de le développer puis sont rendus à aller chercher de l'aide. Il y en a qui ont vécu avec ce trouble-là pendant des années. Fait que c'est sûr que de leur enlever ce moyen-là du jour au lendemain, même si on avait le pouvoir de le faire, on pourrait pas, ils se noiraient. Tu sais, c'est trop...
On mettrait en péril leur survie psychologique.
C'est comme de la réduction des méfaits, là.
Oui, on est absolument dans une approche de réduction des méfaits.
Oh!
Et ça, c'est absolument dans ma thèse. Parce que...
Applique sa thèse!
Yeah. Très peu de personnes appliquent cette approche aux troubles alimentaires. On est vraiment souvent dans une approche d'abstinence. On ne peut pas s'abstiner de manger, c'est impossible. Cependant, on peut être dans l'abstinence des rechutes.
Okay.
Ça ne marche pas. T'sais, puis dans le contrôle des aliments que les gens peuvent manger, c'est vraiment très structuré et rigide les traitements qu'on propose pour les personnes qui vivent un trouble alimentaire. Puis nous, on n'est tellement pas là-dedans.
Mais là, attends, êtes-vous en train de me dire que on va continuer à parler de l'anorexique? Il décide qu'il fréquente arrimage, estrie, il découvre qu'il est anorexique, il en prend conscience, il est bien avec ça, il prend un petit peu contrôle, mais il décide de rester dans son anorexie est toujours accepté et bienvenu à Rimage. C'est pas un échec, ça?
Ils sont absolument. Chaque personne est maître de leur établissement. Donc, ça veut dire que si la personne est satisfaite d'être fonctionnelle à un certain degré, puis le trouble est encore présent, ben nous, on accepte ça, on n'a rien à dire là-dessus. C'est eux qui vivent leur vie, ils sont les experts de leur propre corps. Mm-hmm.
T'sais, on est sur une base volontaire ici. Il n'y a pas personne qui vient accompagner ou obligé d'être ici. Fait que c'est sûr qu'une personne qui vient chercher de l'aide nécessairement a des enjeux ou a quelque chose avec qui est plus payant ou qui fait plus son affaire ou qui est devenu désagréable ou trop envahissant. Fait que, sinon, il ne viendrait juste pas confronter ce moyen-là. Mm-hmm. Parce que le confronter, c'est risquer de le perdre aussi. Fait qu'une personne qui est rendue à faire des démarches pour aller chercher de l'aide, c'est parce qu'il y a quelque chose qui...
Ils sont prêts à travailler.
Ça ne fonctionne plus.
Tu sais. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, puis ils arrivent ici, OK, je suis prête à travailler. Mm-hmm. Puis des fois, ils arrêtent en cours de route pour dire non, c'était trop, je reviens quand je suis prête.
Ouais.
Puis on est d'accord avec ça.
OK. Mm. Les organismes communautaires ont des missions. C'est un terme qui nous vient pratiquement directement de l'Église, dans mesure où on vise quasiment quelque chose au-delà de divin. Qu'est-ce qui ferait en sorte que votre mission serait accomplie puis qu'elle perdrait son sens? Vous dites là, ça y est, à l'image...
On n'a plus de.
Non, on n'a plus besoin de ça par l'image corporelle.
Bien, les organismes à la base, notre mission part d'un besoin de la population. Oui. C'est un peu la philosophie des organismes. Le but, ce serait de ne plus exister, finalement.
Oui.
Puis pour ne plus exister, il faudrait que tout le monde soit totalement satisfait ou du moins ait une satisfaction assez grande qui fasse en sorte qu'il n'y ait plus d'obsession puis qu'il n'y ait plus de besoin de contrôle ou de développement de troubles.
Oui.
On est, à mon avis, loin de là. Je pense qu'on a encore du travail pour quelques années.
Quelques années.
Quelques décennies, peut-être, ou quelques... Ouais.
Est-ce que je peux dire en 2017 à quelqu'un, je pense que tu serais plus en santé si tu perdais du poids, t'es obèse? Je peux-tu dire ça à quelqu'un ou non?
Moi, je pense que non.
OK.
Je pense que non, mais c'est tellement courant, puis il n'y a même pas un langage pour décrire quelqu'un qui aurait une diversité corporelle qui n'est pas définie par, mettons, l'IMC.
L'horrible IMC.
L'horrible IMC qu'on critique à journée longue, parce que c'est une mesure populationnelle qu'on utilise pour les individuels. C'est trop simpliste comme équation pour décrire, t'sais, la complexité de notre génétique, de notre expérience, de
la culture. Il y a un paquet de facteurs que ça ne va pas considérer, là, que ce soit si c'est une masse musculaire ou une masse osseuse plus grande ou une masse graisseuse. T'sais, le muscle va prendre plus de poids sur une balance que de la masse graisseuse. Fait qu'une personne, finalement, une personne qui s'entraîne, exemple un culturiste, pourrait probablement passer pour un obèse morbide sur une balance alors qu'il s'entraîne tous les jours.
Voilà. Ouais. Mais aussi, ce que je disais par rapport à comme le surpoids puis tout ce qu'on veut contrôler là-dedans, on veut toujours mettre ça sur l'individuel. Ah, tes habitudes de vie, c'est toi qui dois te prendre en main. Mais on regarde pas les problématiques culturelles qui font en sorte qu'il y a des personnes de plus en plus qui sont plus hauts, qui ont des surplus poids. Il n'y a même pas un mot pour dire ça de façon positive. Il y a comme, ça n'existe pas, j'en cherche. Des personnes plus rondes, des personnes avec plus de courbes. Il n'y a pas de façon de dire ça qu'il n'y a pas une connotation négative. Mais on met ça sur l'individuel sans regarder le fait qu'on est de plus en plus sédentaire dans notre travail, à l'école, dans toutes nos activités, sans regarder la nourriture, quelle nourriture est partout, qui est vraiment calorique, hautement calorique, mais très peu nutritif. Il y a comme plein de choses là, qui sont culturelles, qui sont liées à des politiques, qui sont liées à des lois, plein de choses. Mais on vise l'individuel et leur habitude de vie.
Oui, on vise, c'est ça, la personne qui est souvent l'espèce de classique, la personne manque de volonté, mais tu sais, la variation de poids n'est pas uniquement une question de volonté. L'alimentation, en fait, puis l'exercice physique, la contribution que ça apporte dans la détermination du poids est petite comparativement à l'ensemble des facteurs de variation de poids. Tu as des facteurs, t'as un paquet de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, que ce soit ta santé, que ce soit si tu as certaines problématiques de santé ou si tu prends
des médicaments. Ton statut socio ou économique, il y a plein de facteurs.
Exact. Fait que c'est un ensemble de facteurs qui déterminent le poids et non pas juste un calcul, ce que tu manges, puis l'exercice que tu fais. Il y a des trucs sur le... Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as un contrôle, l'alimentation, l'activité physique, mais la grosse majorité des facteurs de variation de poids, t'en as peut-être pas tant que ça du contrôle dessus. Mais on te rapporte quand même la responsabilité que tu tu manques de volonté si tu ne rentres pas dans le cadre. Tu sais, à toi comme individu, fait que ça fait une belle société qui se culpabilise.
Puis on lit ces corps-là en surplus de poids puis obèses comme des corps qui sont lâches, qui n'ont pas des bonnes habitudes de vie, mais la plupart, il y a beaucoup de ces gens-là qui vivent un trouble alimentaire, qui vivent soit de la boulimie, qui vivent l'hyperphagie. L'hyperphagie, aux États-Unis, c'est rendu, il y a plus d'hyperphagie que d'anorexique et boulimique ensemble.
Ah ouais, il va falloir nous définir ça, là. La grosse différence entre l'hyperphagie La boulimie
et l'hyperphagie ont en commun qu'il y a des crises alimentaires. Ça veut dire ingérer une grande quantité de nourriture, complètement subjectif, la grande quantité, dans une courte laps de temps, donc de 40 minutes à 2 heures, et il y a un sentiment de perte de contrôle. Ça, c'est les trois choses qui caractérisent une crise alimentaire. Avec la boulimie, qui va avoir plein de comportements compensatoires, puis avec l'hyperphagique, non. Donc, c'est clair que l'hyperphagique va avoir un corps en surpoids ou des fois qualifié d'obèse. Mais 40% des hyperphagiques sont des hommes aussi. Donc, on défait plein de mythes par rapport aux troubles alimentaires. Tout le monde a l'anorexique en tête quand on pense aux troubles alimentaires. Mais il y a plein de troubles qui ne s'affichent pas sur le corps de la même façon. Mais il y a aussi une obsession culturelle avec la femme fragile, petite, qui se prive, là, qui alimente le fait qu'on voit juste l'anorexie comme le trouble alimentaire qui existe, puis pas les autres.
Et pourtant, c'est celui le plus populaire qu'on entend parler, qu'on connaît, mais c'est pas nécessairement celui qui est le plus présent au niveau statistique, au niveau nombre. C'est pas celui qui touche le plus de gens.
Vous avez parlé des hommes, admettons, qui souffrent d'hyperphagie beaucoup.
Oui.
Là, j'ai circulé un peu dans l'organisme, c'est très beau. J'invite toutes les gens qui écoutent à le visiter un jour. J'ai vu que des femmes sur les photos. Votre équipe me semble être entièrement féminine.
Tu sais pas.
J'ai pas vu.
On est peut-être trans, vous savez.
Oui, mais je suis pas allé jusque-là dans une visite, là, on va dire, de surface. Est-ce que vos membres sont 100% des femmes? Avez-vous des hommes qui fréquentent Arimage?
Oui, tout à fait. Ben, l'aspect, tu sais, la programmation d'activités, justement, où est-ce qu'on a des conférences grand public, puis même dans les, tu sais, on fait des ateliers dans les milieux. Quand on va dans un milieu scolaire, c'est moitié-moitié. Tu sais, puis les gens qui viennent au grand public, c'est peut-être qu'au niveau des services troubles alimentaires, il y a peut-être un bassin plus grand de femmes qui viennent chercher des services, mais encore là, c'est questionnable parce que, oui, peut-être que ça va. Je ne sais pas si c'est tant parce que ça touche moins de gars ou parce que les gars viennent moins chercher de l'aide parce que le stéréotype ne propose pas beaucoup ça aux gars, là, d'être vulnérable. Puis c'est tout un
puis on associe les troubles alimentaires comme un trouble de femme. Là, donc, c'est une autre barrière à venir chercher de l'aide. Et c'est vrai qu'on est toutes des femmes. Pas parce qu'on veut, on veut embaucher des hommes.
Oh oui,
on veut accueillir des hommes au CA puis dans nos membres. C'est d'ailleurs pourquoi on a changé de nom et de mission il y a maintenant 5 ans, parce qu'on voulait inclure des hommes. Cependant, difficile de trouver des hommes qui sont interpellés et ou spécialisés en tant qu'intervenants dans ce. Mais un jour, là, ça, c'est notre plus grand souhait. Là.
C'est les stagiaires.
Ah, les stagiaires. Dans les cours, je suis comme les gars, venez, je veux. Puis on n'en a pas eu jusqu'à maintenant.
On a eu des entrevues.
On a eu des entrevues, c'est vrai.
Mais tu sais, on veut que la mission fasse du sens pour eux. Fait que si une stagiaire arrive ici avec une personne qui fait 20 ans qui est au régime, ben, peut-être que
ça marchera pas.
Ça fonctionne pas au niveau des valeurs. Tu sais, on est beaucoup on aime beaucoup la cohérence ici.
Tu sais, puis tout le monde peut pas travailler chez Arimage, c'est correct.
Non, puis c'est bien correct.
Totalement.
C'est pas un rejet, c'est-à-dire on préfère certaines caractéristiques. C'est pas parce qu'on rejette tout le monde.
Non. Puis les gens pour nous, c'est rendu, on voit, c'est visible pour nous quand les gens ont un enjeu avec la nourriture ou avec leur corps. On demande des questions spécifiques, mais déjà d'habitude, on a un feeling pour les personnes qui ne sont pas bien avec eux-mêmes. Puis c'est pas un milieu où ils vont régler leurs problèmes, c'est un milieu où ça va peut-être empirer. Donc on préfère prendre des personnes qui sont assez solides.
Puis même dans nos formations, on parle de ça, l'importance des mots qui vont être utilisés. Puis parce que tu peux pas, on enseigne à déconstruire les stéréotypes. Fait qu'évidemment que si t'arrives, tu utilises le terme beau gars, belle fille. Tu sais, il y a certains termes où est-ce qu'on essaie de rendre ça le plus neutre possible, tu sais, pour sortir justement de pas encore endurcir le.
Puis le langage, c'est le véhicule de la culture. Donc si on utilise un langage qui est pas adapté, ben on est en train de véhiculer les mêmes idées puis le même contenu que toutes les autres. En plus, on investit beaucoup nos stagiaires. Là. On les offre beaucoup de formations. On veut créer des acteurs de changement avec nos stagiaires. On veut qu'ils sortent d'ici et que ce soit des mini-arimagites là, qui s'en vont là, dans leur milieu.
C'est comme une maladie.
Oui, c'est
une nouvelle maladie, l'arimagite.
Bref. Mais tu sais, c'est important pour nous. Là. On passe du temps avec eux puis on veut vraiment. Pour nous, c'est une façon de faire vivre notre mission ailleurs qu'à Arimagistrée.
Non, c'est bien. J'aime ça, le fait que vous intervenez autant sur, à la limite, le personnel que, en toute chose, vous répétez votre mission.
Ben, il faut, parce que si cette cohérence n'est pas là, nous, on n'a aucune crédibilité dans ce qu'on fait. Puis donc, c'est pas tout le monde qui est willing d'accepter ce projet-là, de comme vivre pleinement les valeurs d'Arrêt Magistrie. C'est pas évident.
Non, mais c'est très intense. Puis la tentation est là de dire, ben moi, OK, ça va, je trouve ça bien que les gens s'acceptent. Mais pas trop, il y a toujours bien une limite.
Faut que je fasse attention.
Oui, non, il y a toujours bien une limite au corps que je vais accepter. Ensemble.
Non.
Ouais. Ça a été menti pendant des années, blague pas. Éviter, peu importe, patate.
Ben non, mais je blague parce qu'on l'utilise dans les ateliers, justement. C'est les phrases clichés que c'est comme, ben non, moi je suis pas au régime, ou ben non, moi je fais pas attention, c'est juste que j'évite ça. Tu sais, c'est des discours qui sont totalement normalisés, mais on travaille fort à la déconstruction puis arrêter de catégoriser parce que nécessairement... On a tout un rapport, à un moment donné, émotif avec l'alimentation à différents niveaux. Tu sais, je pense que quand tu développes un trouble, c'est parce que peut-être que ce moyen-là prend trop de place, justement, mais on a tout un rapport émotif. Puis quand on mange de façon émotive, c'est sûr qu'on ne va pas aller dans la catégorie d'aliments qu'on a classés comme étant sains. Tu sais. Fait que nécessairement, si on n'a pas d'ennemis comme aliment, si on n'a pas d'interdit, puis tout a une valeur égale, ben on va pas nécessairement aller vers une catégorie qui va être... c'est éliminer les catégories, éliminer les tags alimentaires qui disent permis ou interdits. Puis le corps, naturellement, va pas aller de façon récurrente à long terme vers des aliments qui sont pas nutritifs.
Non, vraiment
c'est pas gagnant pour lui. T'sais. Il va y aller parce que s'il mange d'une façon émotive, il va aller vers cette catégorie-là parce que c'est réconfortant. Parce que depuis qu'on est tout petit, on associe ça. T'sais. Si on offre une variété... Puis il n'y a pas vraiment de classe, mais le corps va aller vers ce qu'il y a besoin.
Est-ce qu'il peut avoir un régime sain? Est-ce que quelqu'un
non.
peut...
L'écoute, la réponse, c'est non.
Ben, c'est l'écoute des signaux de faim satiété.
Ce qui n'est pas un régime.
Ce qui n'est pas un régime, ce qui est une approche, qui est un... Mais en fait, c'est manger comme un bébé, c'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas pourquoi qu'on désapprend ça en grandissant, puis c'est là qu'il y a le problème.
Je ne peux pas me dire je perds 20 livres pour l'été, puis après ça, je vois... Non? C'est pas correct?
Pas correct.
c'est une pression qui est énorme, tu sais, puis qui on nous vend l'idée que c'est facile, on nous vend l'idée que
le corps est un chantier de travail,
puis que ça doit être modifiable puis perfectible. Puis c'est pas vrai que c'est facile, même si y a un paquet d'industries, tu sais, l'industrie de l'apparence, c'est quelque chose comme 56 milliards là, que ça rapporte à chaque année au Canada. Fait qu'il y a c'est payant qu'on soit insatisfait, c'est payant qu'on nous envoie des modèles qui sont inatteignables. Il y a des gens qui se payent vraiment la traite, qui se graissent la patte sur nos insatisfactions, puis c'est ça qui est pas correct. Puis c'est, fait que tu sais, le oui, je veux perdre 20 livres pour rentrer dans mon beach body, ben, mais le pourquoi, tu sais, souvent c'est d'aller voir, mais pourquoi on a besoin d'atteindre ça? Pourquoi on peut pas juste être bien dans ce qu'on est? Mais là aussi, il y a souvent... La peur, tu sais, en dessous, quand on fouille, souvent, c'est une peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, de ne pas correspondre. Puis de, tu sais, c'est souvent ça qui est en dessous, tu sais, la crainte de se faire rejeter ou de ne pas appartenir. Ou...
Mais l'astuce avec écouter son corps puis ses signaux de faim et de satiété, c'est qu'on va arriver à notre poids naturel. Mais le poids naturel, là, c'est pas le poids qu'on veut. C'est le poids que notre corps choisit pour nous. Ça, ce n'est pas évident. T'sais, déjà, l'idée d'écouter les signaux, OK, mais de ne pas savoir vers où on s'en va, c'est ça qui insécurise les personnes. C'est angoissant parce que ce n'est pas un objectif clair. On laisse le corps trouver son équilibre. Puis pour certains, ça veut dire qu'ils vont perdre du poids. Pour d'autres, ça veut dire qu'ils vont en prendre. Puis c'est ça.
Mais le corps, il va chercher l'équilibre. Le corps, il n'a aucun avantage à traîner un surpoids ou être en sous-poids. Lui, il va chercher un équilibre dans lequel il est confortable, dans lequel c'est le plus sain pour nous, dans le surpoids. Naturellement.
Puis la génétique joue là-dedans. Il y a des gens qui l'appellent le poids génétique et non pas le poids naturel. Mais moi, on ne veut pas dire que c'est juste la génétique parce qu'on sait que l'influence de la culture et la façon qu'on vit dans notre culture actuelle influence le poids naturel des gens.
On veut parler d'apparence corporelle auprès des jeunes. J'ai souvent des TES qui vont entrer dans les maisons de jeunes.
Oui.
S'ils veulent parler de cette question-là, comme TES, avez-vous des conseils à leur donner?
Mais je vais laisser Karine parler d'image corporelle plus que moi.
Bien, je pense qu'il y a un premier... je pense que c'est bien de situer soi-même aussi au départ dans notre image corporelle. Je pense que c'est la base là, de savoir, moi, comment je deal avec ça. Évidemment que si j'ai des préoccupations à côté, je suis peut-être pas la personne la plus outillée pour aller donner des conseils qui vont être nécessairement... C'est difficile, je pense, quand t'as pas fait un bout de chemin avec toi puis avec une acceptation, puis tu sais, faut que tu y crois, là, tu peux pas juste le dire. Fait que nécessairement, il y a un travail à faire avec comment moi je me sens avec moi-même. Je commencerai par ça.
Moi, pour les TES, je dirais, rappelez-vous que vous êtes des intervenants sociaux. Donc, vous avez un rôle à jouer qui est spécifique à votre discipline. Ça veut dire qu'il y a des liens sociaux qui sont vraiment brisés, souvent pour les gens qui ont vécu un enjeu d'image corporelle ou un enjeu de trouble alimentaire. Puis ça, c'est à reconstruire. Que ça soit de venir dans un groupe, que ça soit de s'activer dans sa communauté, tu sais, on a parlé de toutes ces préoccupations-là sans parler du fait que ça empêche une grande partie de la population d'être des citoyens et citoyennes actives. Mm-hmm. Tu sais, on est préoccupé, on passe plein d'argent, d'énergie, mais ça, c'est de l'énergie, du temps et de l'argent qu'on ne met pas sur d'autres choses. Donc, de revenir à ces d'autres choses-là qui peuvent être aidantes dans leur établissement, mais aussi dans l'épanouissement de soi-même, ça peut être une façon d'accompagner quelqu'un qui vit ces problématiques-là. Et je dirais, même si on parle d'apparence, de troubles alimentaires et de nourriture, d'en parler le moins possible. Parce que c'est que des manifestations des problèmes plus profonds. Mmh. Des problèmes sociaux, des problèmes personnels, des problèmes familiaux.
Pas s'arrêter.
Non. Pas être sur le comportement. En fait, non. Okay. Une personne qui vit un trouble est déjà obsédée par l'apparence, le chiffre, sa balance, le contenu, l'alimentation. Tu sais, je veux dire, c'est déjà une obsession envahissante dans sa tête. Fait que c'est pas aidant d'observer son assiette puis de faire un commentaire sur le fait qu'elle mange beaucoup ou pas.
Non.
C'est pas quelque chose qui est aidant. Et c'est pas non plus aidant de dire à une personne qui est en rétablissement que son poids a changé pendant ce rétablissement-là. C'est pas aidant non plus de porter un commentaire sur le corps puis de dire « Hey, t'as pris du poids, ça te fait bien, t'as l'air en santé. » T'sais, cette personne-là, c'est d'accepter ce nouveau poids-là puis de dealer avec le fait qu'elle a peur de perdre le contrôle là-dessus, c'est énormément angoissant. Fait que c'est pas c'est vraiment d'agir sur en dessous, tu sais, les émotions, toute cette gestion-là qui est en dessous et non
comment, pas. Comment on se rend en arrière du trouble? Vous avez sûrement des succès en intervention sans vous donner de nom, mais comment vous vous rendez en arrière du
trouble? Bien, pour nous, on interdit les gens de parler de quoi que ce soit qui a un lien avec le trouble en tant que tel. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de nommer d'aliments, ils n'ont pas le droit de nommer de calories, de nombre d'heures, d'exercices. Ils n'ont pas le droit de nommer quoi que ce soit qui a un lien avec l'entretien de leur trouble alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus rien que le reste.
Ils se réunissent à l'extérieur. Non, non, mais... fait qu'ils parlent autour de des relations, de leurs sentiments.
Leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils vivent.
Okay.
C'est ça qu'on bûche, en fait, c'est d'aller savoir qu'est-ce qui cause le trouble, puis défaire ces nœuds-là, puis d'arriver... Puis tu sais, le fait de faire ce travail-là sur soi, de se connaître plus, de savoir ses limites, ses forces, de ses blessures, de quoi que ce soit, c'est nécessairement ces nœuds-là vont se slacker un peu, vont se défaire tranquillement. C'est un travail de fond et non pas sur le comportement. Mais une personne qui a une compulsion alimentaire, la solution n'est pas de mettre des cadenas après les armoires pour éviter la compulsion. T'sais.
Vraiment pas. Mm-hmm. Puis aussi, ça nous permet, dans nos groupes, d'avoir tout trouble confondu. Il n'y a pas beaucoup de places qui font ça. Parce qu'on parle de ce bas d'iceberg-là, de tous ces facteurs qui entretiennent, mais qui ont aussi amené le trouble alimentaire, ça permet toutes les manifestations d'être dans la même salle puis de parler de ce qu'ils vivent sans que ça soit nuisible pour l'un ou pour l'autre.
Ça me semble être vraiment un aspect novateur puis très, très intéressant.
Ouais.
L'idée de mélanger les troubles pour adresser la question de fond sociale et collective.
Oui.
C'est ce qu'on se permet pas de faire ailleurs.
Oui, non, vraiment pas. D'habitude, on veut toujours séparer.
Ouais. Puis dire que finalement, peut-être quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau puis qui est en situation de surpoids versus quelqu'un qui est toujours au régime puis qui est à risque d'anorexie ont peut-être plus de points en commun que tout ce qu'ils pensaient.
Bien, puis ces moments-là, en groupe, où ces deux personnes-là se rendent compte qu'ils vivent la même chose, man, la puissance de ça, moi, je pourrais pas le recréer en individuel, jamais. T'sais, c'est leur vie à eux. Là, c'est révélé par le groupe. On y croit vraiment au groupe aussi. T'sais, on croit dans le potentiel des gens de s'entraider, se soutenir. C'est pas juste nous qui font le soutien. Là. Ce serait, on est là pour faciliter. C'est tout.
On est là pour accompagner aussi, et non pas faire pour. On est là pour outiller puis faire en sorte que ce soit peut-être moins pire demain. C'est un peu notre philosophie. Raison pourquoi on parle du rétablissement et non pas
la guérison.
On n'a pas de baguette magique ici, mais on peut te donner des outils, on peut t'aider à sortir avec un coffre qui va être plus rempli.
On travaille beaucoup aussi à solidifier le filet autour de ces personnes-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on offre des rencontres pour les proches, des personnes qui vivent un trouble alimentaire. Donc, on est là aussi pour accompagner les proches pour mieux soutenir leur personne, que ce soit n'importe qui, là, amis, prof, n'importe, peut venir, c'est gratuit, on leur offre un soutien pour qu'eux-mêmes ils soient là pour intervenir auprès de la personne qu'ils aiment. Parce qu'on s'entend que nous, on est là, tu sais, on fait, je sais pas, 6 heures de groupe par semaine, mais les personnes qui vivent avec ces gens-là sont là 24 heures sur 24.
Oui, puis c'est pas banal comme support. Fait que juste de comprendre la problématique, c'est déjà beaucoup. Là, comprendre comment ça marche, comprendre les pièges.
Qu'est-ce qu'on doit faire.
Oui, exactement. Ouais. Exactement.
Puis on offre ça aussi en forme d'atelier qu'on fait circuler un peu partout en Estrie. Donc, je donne souvent cet atelier à des profs, des personnes qui sont dans les résidences, dans les collèges et tout ça. Donc, on veut outiller les gens de la communauté pour pouvoir minimalement soutenir les personnes qui pensent vivre un trouble alimentaire.
Ouais. Puis les pères, voilà.
Oui, les pères. On veut créer des acteurs de changement. On veut pas juste que Arrimage Estrie soit comme les experts, puis il faut venir ici. Non, on peut venir ici pour s'outiller, pour mieux soutenir les personnes autour de nous.
On n'est pas une business.
Même question, mais pour les gens qui sont en soins. Alors, les gens qui deviennent infirmiers, infirmières, qui sont dans un milieu, là on n'est pas dans l'accompagnement à long terme. Ça va vite, on a de la pression au travail. Oui. Ben là, il y en a peut-être qui vont arriver à pogner une superbe clinique là, avec des docteurs ouverts.
On leur souhaite.
Oui, bon, mais je vais présumer que ce n'est pas ça qui va se passer. OK, okay. Merci. Alors là, on rencontre des patients. Comment, quel conseil vous avez à leur donner par rapport à l'image corporelle là, ils vont rencontrer? À quoi ils doivent faire attention? Il y a des indices là, qu'ils vont rencontrer chez les personnes. Il y a souvent, c'est la hantise d'aller se peser chez le docteur.
Oui, mais c'est ça que j'allais dire. On a-tu quelque chose à dire sur la pesée? Parce que c'est souvent, effectivement, non seulement une hantise, mais ça peut aussi déclencher des trucs chez les gens qui vivent certains troubles. C'est pas...
Ah non, vraiment. Ça peut les déstabiliser complètement. Mais nous, on a discuté, puis on pense que la première chose qu'on dirait, c'est... Ben, comme Karine, soyez au courant de vos propres enjeux par rapport à l'image corporelle, votre poids, l'alimentation, parce que si vous ne le regardez pas, vous le transmettez aux autres. Ouais. Mais pour nous, la règle d'or, ça serait de jamais passer des commentaires par rapport au poids ou à l'apparence des personnes, peu importe.
C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas demander ça à quelqu'un en soi.
Pourquoi
pas? C'est son travail de surveiller la santé. C'est ça qu'ils vont me dire tout de suite.
Leur travail n'est pas de porter un jugement sur le corps ni ou le poids de quelqu'un. Ce n'est pas leur travail.
En fait, c'est parce que je ne sais pas le fonctionnement ou comment ça peut se passer dans une clinique ou est-ce que ça va rapidement, mais des fois, il faut faire attention à tomber dans le jugement rapide, de dire, ben cette personne-là est au-dessus de son IMC, donc nécessité, c'est de ne pas oublier qu'il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour déterminer la santé et ce n'est pas juste un chiffre sur une balance puis le calcul d'une mesure qui va nous donner l'état de la santé d'une personne. Mm-hmm. Tu sais, moi, le meilleur exemple que je donne toujours, tu sais, c'est une amie qui est en surpoids selon son IMC, mais cette personne-là, c'était la personne la plus en forme de la gang. Tu sais, je veux dire, c'est une personne qui avait une qualité de vie, qui avait, quand tu regardais toutes les sphères de la santé, c'est une personne qui était équilibrée. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'on est mince et qu'on rentre dans l'IMC qu'on est plus en santé. Si je fume 6 paquets de cigarettes par jour, puis que, tu sais, je veux dire, il y a d'autres facteurs. Fait que c'est de pas oublier qu'il y a ces facteurs-là. Puis, mais souvent, comme je dis, je ne sais pas la réalité sur le terrain, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas nécessairement avoir accès en 15 minutes. Fait que ça fait pas de sens de porter un jugement puis de dire « elle n'est pas correcte ». C'est des jugements qui ne devraient pas être aussi faciles quand on n'est pas capable de considérer l'ensemble des choses.
Puis on peut même demander aux gens s'ils veulent se faire peser de dos. T'sais, on peut, ça ne nous empêche pas d'écrire le chiffre pour le médecin dans le dossier. Ouais. Puis de ne pas avoir comme... Surtout si la personne vit un trouble alimentaire, c'est essentiel pour eux que ce moment-là soit comme pas un moment de stress. Puis des fois, savoir le chiffre, ça les déstabilise pendant un mois.
Puis de savoir que quelqu'un y a accès aussi.
Oui.
Fait que là, on dit que c'est juste un indicateur parmi d'autres.
Oui.
Fait que probablement que la recommandation, j'ai l'impression qui pourrait être concrète, ce serait de dire, est-ce que je peux vous... est-ce qu'on peut vous parler de votre poids? Est-ce que je peux... Tu sais, êtes-vous conscient? Mm-hmm. Avez-vous une préoccupation par rapport à votre poids? Peut-être que ça peut être ça.
Ben, des termes neutres, pas de problème, mais souvent, c'est quand on parle de poids, ce n'est pas des termes neutres.
Non, quand je les entends, c'est absolument pas neutre.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a tout entendu, là. Moi-même, je l'ai entendu au médecin, puis ça m'offusque. Je suis comme, on parle de mon corps. Moi, je suis l'experte de mon corps. T'sais, c'est pas ce chiffre qui est l'expert de moi, là. Donc, de redonner un peu le pouvoir à la personne qui est là, la personne qui connaît leur réalité, tu sais, qui sont dans leur vie et dans leur corps à tous les jours.
Puis qui deal avec. C'est facile en 5 minutes de dire à quelqu'un, tu devrais perdre 20 livres parce que tu irais vraiment mieux. Mm. Mais concrètement, dans la vie de cette personne-là, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de la préoccupation que ça peut créer, de l'obsession que ça peut créer, puis du travail que ça peut prendre de la pression que ça peut mettre. Puis c'est pas vrai que c'est facile de perdre 20 livres en deux semaines. On nous fait croire que c'est facile. On nous fait croire que, bon, on fait de l'exercice, mange mieux. Ouais, mais attends, il y a plein d'autres facteurs qui font que je peux pas toujours rentrer dans ce cadre-là.
C'est important aussi de comprendre, les médecins, les infirmières, les professionnels de la santé ont un certain statut dans notre culture. Mm-hmm. Si le médecin me dit « je dois perdre 20 livres », ça veut dire quelque chose. C'est pas mon ami qui me dit ça. T'sais, ils ont un certain pouvoir, une expertise qui fait en sorte que les gens sont portés à croire ce qu'ils disent. Donc, ce qu'on dit, là, c'est important quand on est un professionnel de la santé.
C'est pas non plus T'sais, on n'est pas non plus dans le fait de démoniser tout ça. On n'est pas en train d'endosser nécessairement la culture de l'obésité. Parce que c'est la question qu'on a souvent, t'sais, est-ce que, de base, si vous êtes là-dedans, dans l'acceptation, nécessairement, c'est que vous tolérez l'obésité, puis que vous endossez ça, puis que c'est... Mais tu sais, je pense qu'il y a comme un entre-deux qui peut exister dans tout ça. Il y a une différence entre l'obésité et la diversité. Ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier.
Exactement.
Ouais, c'est comme un ou l'autre. Il y a deux pôles. Ouais, on accepte tout ou on n'accepte rien.
C'est ça.
Puis les gens eux-mêmes ont comme internalisé ça. Là, des gens qui sont pour moi très normales ou bien en léger surpoids se qualifient eux-mêmes d'obèses. Tu sais, on a vraiment...
On ne tolère plus ça.
Non, on ne le tolère pas. Ça doit être médicalisé.
Ouais. Et nécessairement nuisible. Voilà. Dans les faits, peut-être juste de poser la question, comment tu deals avec ton corps, comment tu deals avec ton poids, es-tu confortable dans ta vie quotidienne, as-tu des limitations, tu sais.
Oui.
Juste de considérer ça, c'est déjà énorme, parce que peut-être que la personne est beaucoup plus en forme que l'autre qui a passé avant puis qui est rentré dans son IMC, mais elle, elle est correcte. On a deux données et demie, on sait que sa vie va bien, mais tu n'as aucune idée.
Ouais,
d'aller plus loin, des fois, un peu que ce qu'on nous propose, comme considérer la globalité.
Oui, tout à fait.
Fait que finalement, vous considérez quelque part que le modèle qui est proposé, comme dans notre imaginaire, le corps en santé est un corps malade dans les faits.
Pourrait être. Puis c'est un corps qui, génétiquement, reflète de 3 à 5 % de la population serait génétiquement notre vision de cette personne-là, de ce poids-là.
Il faut sortir de cette idée-là selon laquelle santé égale minceur. C'est complètement faux. Comme on l'a dit, la santé, c'est un ensemble de facteurs. C'est pas juste un poids sur une...
Ah, vous pouviez passer un message aux membres de la société. On vous donne la garantie que tout le monde vous écoute.
Oui.
Ça serait quoi? Oui. Ça serait quoi votre message? Pas le droit de parler de ta thèse.
OK. Ah.
Je peux y aller?
Oui.
Ben, je reviendrai avec le fait, on est souvent dans la normalisation puis la banalisation de l'insatisfaction puis de l'obsession. C'est comme si dans notre culture, c'est devenu normal d'être obsédé par rapport à l'alimentation, au corps, au poids. Juste de rapporter, de revenir au fait que ce n'est pas normal de vivre autant de haine par rapport au corps. C'est pas normal d'entretenir ce rapport-là de haine. On n'a pas besoin de traîner ça dans une vie. C'est une vie, hein? On peut la vivre aussi en étant au-delà de ça. Fait que je pense que pour moi, ce serait de rappeler ça, que c'est pas normal, même si c'est banalisé, puis que ça ne veut pas dire que c'est normal, puis que c'est sain.
Puis moi, ce serait que d'être une citoyenne active, c'est super important pour le bien-être de la personne, puis on l'oublie. Puis d'investir d'autres sphères de notre vie que l'apparence, le poids et tout ça, c'est super important, et pour la personne qui vient un trouble alimentaire en rétablissement, et pour tout le monde. De juste investir d'autres facettes de notre vie, de notre personnalité.
Quand je forme des intervenantes, une large proportion d'entre elles ont comme un démon ou une blessure par rapport aux problématiques qui les intéressent le plus, souvent. Je me demande, est-ce que c'est votre cas? Avez-vous un vécu dans l'organisme? Est-ce qu'il y a un vécu des intervenants ou des intervenantes, une problématique liée à l'image corporelle? Puis comment vous avez pris votre distance par rapport à cette espèce de démon-là?
Bonne question. Mais on vit dans la même culture, le même contexte socio-culturel que toutes les personnes qui viennent ici. Ceci dit, nous, on ne répond pas à cette question, ni pour les personnes qui viennent ici, parce que tout le monde demande ça. Puis, tu sais, on a développé une expertise qui n'a pas un lien avec notre parcours personnel. Cependant, on vit dans le même contexte. Donc, c'est clair qu'on a eu tout... Je ne veux pas dire un enjeu, mais tu sais, on se bat contre les mêmes affaires, les mêmes stéréotypes, les mêmes enjeux. Puis, on a mis en place plein d'instances dans l'équipe pour préserver notre santé par rapport à l'image corporelle puis l'alimentation. Donc, on fait plein d'activités, c'est une intervision qui est comme la supervision, mais c'est une partage plus horizontal, qu'on fait régulièrement, des rencontres d'équipe à toutes les semaines. On est tout le temps en train de se checker pour s'assurer qu'on va bien dans ce qu'on fait. Puis on a mis en place aussi des choses, ça compte pour les stagiaires, autant pour les personnes qui travaillent ici. S'ils sont dans un groupe trouble alimentaire puis ça commence à mal aller, au niveau de leur propre relation avec la nourriture, le corps, ils arrêtent tout de suite. On a plein d'instances pour comme protéger.
Vous avez des outils de prévention?
Oui, c'est pour le staff. Parce qu'on sait que même si la personne n'a jamais eu un trouble, ça se peut que d'être dans un groupe où tout le monde a des troubles, puis il y a énormément de souffrance, ça peut être un élément déclencheur. On le sait, on l'a déjà vécu. Donc, on a mis plein de choses en place pour protéger les intervenantes et les intervenants qui viennent ici.
Fait que non, on ne répond pas nécessairement à cette question-là, parce que justement, notre expertise n'est pas nécessairement basée là-dessus, tant qu'on ne veut pas que ce soit... Puis aussi, on ne voulait pas tomber dans le clash non plus de... Tu te fais poser la... Parce que dans les groupes, évidemment, tous ceux qui ont animé les groupes ont eu la question à un moment donné. Fait que tu sais, si on a des vécus qui sont différents, tu peux pas nécessairement qu'il y en ait une qui soit associée, bon, mais elle a eu un trouble, je peux y faire plus confiance, puis l'autre, elle vaut rien parce qu'elle l'a pas vécu. Tu sais, c'est... Je pense qu'on est capable d'apporter de l'aide puis des outils... qu'on l'ait vécu ou pas. T'sais, tout dépend de comment on deal dans le moment présent avec ça, puis si on est en paix avec ça, qu'on l'ait vécu ou pas, je pense qu'à un moment donné. Mais on fait partie, effectivement, de la même culture, puis il ne faut pas oublier que c'est 95% des femmes qui sont insatisfaites de leur corps, leur poids, leur apparence, puis que c'est banalisé. Puis c'est normal, on n'est pas au-dessus de se lever un matin, puis faire partie du 95% ou ne pas faire partie, t'sais. Je pense que c'est quelque chose qui est variable, puis il y en a, tu sais, je le nomme souvent en animation, c'est pas, je travaille là-dedans, je promouvois ça, mais c'est pas vrai qu'à tous les matins, je suis complètement toujours bien dans mon corps. Moi, tout, j'ai envie des changements, moi, tout, je reçois ces images-là, ces stéréotypes-là, je les vis, fait que on n'est pas parfaite, mais je pense que faut quand même arriver à être bien avec ça pour promouvoir le message, parce que sinon,
faut être solide. Si la personne n'est pas solide, ils peuvent pas rester ici.
Fait qu'il faut avoir faut être en paix avec ça, finalement, et non pas être dans ces enjeux-là.
Voilà.
Puis ça n'empêche pas quelqu'un qui a vécu des enjeux non plus, qui a réglé ses trucs, d'être un excellent aidant non plus. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un chemin qu'il faut que tu fasses. Tu sais, moi, j'ai toujours eu comme philosophie personnelle que tu peux pas aller plus loin que... Tu peux pas aller avec quelqu'un plus loin que où est-ce que tu es rendu toi-même. Tu sais, à un moment donné, tu pallies, tu sais,
Mais mettons, si quelqu'un arrive en entrevue puis il commence avec « j'ai eu un trouble alimentaire », là, c'est pas garant d'une job ici, au contraire.
C'est ça.
C'est, on veut que les personnes soient vraiment solides pour pouvoir travailler. Parce que, veux pas, on est des ambassadrices du message d'arrimage dans comme notre vie à tous les jours. Là.
Oui. On ramène chez nous, quand on punch à 4h30, c'est des valeurs qu'on a mis chez nous aussi.
Ben non, missionnaire, ça déploie.
Ben le missionnaire, c'est vrai, des missionnaires. J'avoue, j'avais jamais vu l'aspect missionnaire, ça me fait vraiment
Moi, je renseigne, mais c'est pour ça que c'est une mission, c'est une espèce d'affaire divine au-delà, ben oui.
Mais j'avais jamais compris la provenance, effectivement, la mission et les missionnaires.
Mais le travail social, là, c'est racine, c'est dans l'Église, là. On n'est pas très loin, ben, notre culture, c'est pas si longtemps, général, là. Ouais.
Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous voulez répondre? Est-ce quelque chose que vous voulez dire?
J'ai oublié de dire qu'on est un organisme qui utilise une approche féministe inclusive, ce qui veut dire qu'on travaille dans une approche féministe aux troubles alimentaires et à l'image corporelle, un parmi plusieurs des approches qu'on utilise, mais que c'est possible d'être un organisme féministe et d'inclure des hommes comme féministes et d'inclure des hommes dans notre fonctionnement et nos services.
Ça marche bien, votre affaire?
Pour l'instant, on essaye. On essaie, mais c'est vrai que c'est pas évident.
Ça va faire peur, là. Approche féministe inclusive, là, je suis obligée. Puis, vous prenez au moins une minute pour me dire. Parce que là, ça va faire peur, juste comme ça.
Tout simplement, ça veut dire que les hommes et les femmes peuvent travailler ensemble pour combattre le sexisme.
Et les stéréotypes sexuels. Qui concernent autant les hommes que les femmes, d'ailleurs.
Absolument.
Les gars aussi ont un stéréotype qui est hyper présent, pesant, et qui n'est pas plus fun... Qui n'est pas plus fun et facile à combler non plus. C'est pas tous les gars qui se lèvent avec le désir profond de sauver le monde à tous les jours.
Non.
Et samedi matin, ça leur tente un peu moins. Mais ils ont cette pression-là. Le stéréotype est autant lourd chez les gars. Fait que ça les concerne. Ça les concerne. Puis souvent, quand on parle de tout ce qui est sexisme, stéréotype, souvent on va représenter la femme comme étant, t'sais, juste au niveau de l'hypersexualisation, on l'aborde parce que souvent on va représenter le gars comme un agresseur potentiel, puis la femme comme une victime, le gars comme un agresseur. Puis quand je posais la question des fois à des groupes de gars, est-ce que ça fait votre affaire, vous autres, quand vous marchez dans la rue le soir puis que vous croisez une fille puis qu'elle change de trottoir juste parce que vous êtes un gars, puis que vous êtes potentiellement plus dangereux que... C'est le message aussi que ça envoie, que les gars sont agresseurs. Fait que c'est pas tous les gars qui endossent ça non plus.
Je vais mettre les coordonnées de l'organisme sur le site.
Oui, Facebook, par courriel, on peut nous rejoindre. Mm-hmm. Si les gens veulent s'impliquer dans l'organisme, on a quand même une page Facebook pour les bénévoles. Donc, il y a des bénévoles, on fait des brigades de l'image corporelle où on donne des petites cartes qui disent je t'aime comme tu es, puis on donne un petit caramel. Puis
on se rend à Granby aussi.
Oui, là, oui, oui. Vous êtes sur notre territoire, Granby.
On est à Granby. Oui, oui. Ben oui. Oui. Fait que nous, on se rend.
Bien, Karine Lisée, Sarah Frost, merci beaucoup.
Merci.
Plaisir.
Nous voilà à la fin du premier épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Continuez à me suivre, continuez à fouiller sur le blog, il y aura d'autres entrevues, toujours de l'information utile. On se retrouve bientôt.